BLP Radio.
BLP Radio. Une bibliothèque, c'est nous rapporter. Sur le dos, j'entends car dans la tête, les artifices fleurissent, poussent à l'allure du chien dent. C'est comme ça qu'on glisse sur une effluve de printemps.
Je suis dans le studio de BLP Radio avec deux personnes de la bibliothèque sonore d'Orsay-Rive-de-Livette. Je suis avec Marc, bonjour.
Bonjour.
Et je suis avec Jean-Pierre, bonjour.
Bonjour.
Alors Marc, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Quelles sont vos fonctions au sein de la bibliothèque sonore d'Orsay?
Oui, donc je suis le président de la bibliothèque sonore d'Orsay. Le président, c'est une fonction qui tourne régulièrement entre les différents animateurs. Je suis moi-même donneur de voix, c'est-à-dire j'enregistre des livres. Je suis responsable de la formation des donneurs de voix avec Jean-Pierre. Et je suis responsable de l'équipe des donneurs de voix.
Jean-Pierre, quelles sont vos missions, vous ?
Alors moi, je suis responsable de tout ce qui est communication, donc le site web de la bibliothèque sonore, le journal qui paraît tous les 4 mois... Et je suis aussi donneur de voix et donc j'assure la formation Audacity, donc le logiciel d'enregistrement pour les futurs donneurs de voix.
D'accord. Alors est-ce qu'on peut revenir très rapidement? Qu'est-ce qu'une bibliothèque sonore pour les gens qui ne connaîtraient pas?
Alors la bibliothèque sonore, sa vocation, c'est de mettre à la disposition des personnes qui sont empêchées de lire, pour une raison ou une autre, de mettre à la disposition de ces personnes des enregistrements audio de livres, de littérature. Donc nous enregistrons, nous faisons appel à une équipe de bénévoles qu'on appelle des donneurs de voix, qui enregistrent des livres de littérature, et les enregistrements, nous les confions, nous les prêtons gratuitement à nos audiolecteurs qui les écoutent, soit sur leur ordinateur, soit en téléchargement.
Ok. Alors, depuis quand existe la bibliothèque sonore d'Orsay et comment, par qui a-t-elle été créée ?
La bibliothèque sonore d'Orsay, elle a été créée en 1976. Elle fait partie d'un ensemble d'une centaine de bibliothèques sonores qui sont réparties sur le territoire de la France, qui sont regroupées au sein de l'Association des donneurs de voix, ADV, Association des donneurs de voix, elle-même créée en 1972 par un médecin de Lille qui s'est rendu compte que il pouvait apporter beaucoup, il était ophtalmo, et il pouvait apporter beaucoup à un certain nombre de ses patients à l'aide d'enregistrements sonores de livres qu'il pouvait mettre à leur disposition. Donc la bibliothèque sonore d'Orsay a été créée en 1976 à l'initiative de l'un des membres de l'Association nationale.
D'accord. Alors, en 1976, j'imagine que c'était pas avec des MP3, etc. Comment ça se passait? C'était avec des cassettes audio des...
Absolument. À l'époque, c'était avec des cassettes audio. Donc, on peut imaginer le volume que ça apportait. Il fallait presque une mallette pour en ramener le contenu de plusieurs cassettes, puisqu'à l'époque, c'était lié à la limitation qu'on avait donc, au niveau du support.
Alors on a vu au niveau de la création, ça se rapporte beaucoup quand même au champ du médical, mais j'imagine qu'il n'y a pas que ça. Quels sont les objectifs un petit peu de la bibliothèque sonore d'Orsay ?
Alors notre objectif, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les personnes qui ont un empêchement à la lecture. Alors cet empêchement, ça peut être un empêchement visuel, des gens qui ont une DMLA, un glaucome, une mauvaise vision. Mmh. Ça peut être un handicap moteur, les personnes qui ne peuvent pas manipuler un livre, qui ne peuvent pas tourner les pages, ou bien un handicap cognitif, et là, je pense principalement, bien sûr, aux élèves dyslexiques. Donc, pour ces destinataires-là, et uniquement pour eux, nous produisons gratuitement des enregistrements de livres de littérature, littérature générale pour les adultes malvoyants et littérature scolaire pour les élèves dyslexiques.
Alors justement, au niveau littérature scolaire, j'imagine qu'il y a des relations avec des enseignants. Comment vous travaillez avec les équipes éducatives des différents établissements ?
Alors on a des conventions avec un certain nombre d'établissements scolaires. Donc essentiellement des collèges, parce que c'est surtout cette partie-là de l'école qui est notre fonds de commerce, dirait-on. Donc on a des partenariats, donc on a des contacts avec les établissements scolaires et les référents donc scolaires, donc qui sont la plupart du temps donc documentalistes, qui en début d'année nous donnent la liste des enfants qui sont donc touchés par ce problème de dyslexie, qui font souvent l'objet d'un signalement MDPH ou ce genre de choses. Et donc, ils nous donnent aussi, en même temps que la liste de ces élèves, les livres qui vont être étudiés dans l'année, parce que bien évidemment, si les livres n'existent pas, il faut les enregistrer, et ça nécessite un certain temps pour pouvoir faire l'enregistrement. Donc, on essaie de faire en sorte qu'on n'ait pas, au dernier moment, un livre qui n'est pas encore dans nos fichiers, qui faille enregistrer en urgence. Ce qui arrive de temps en temps.
J'imagine que depuis plus de 50 ans là, d'existence de la Bibliothèque sonore d'Orsay, les classiques sont dans le catalogue. Hein.
Oui, à l'heure actuelle, on dispose d'un catalogue d'environ 2000 titres de littérature scolaire. Et en ce qui concerne la littérature générale, on a passé le cap des 20 000 titres de livres enregistrés.
Alors ça, quand vous me parlez de 20 000 titres, c'est seulement à la Bibliothèque sonore d'Orsay ou sur le réseau national ?
Non, l'avantage de notre organisation, c'est que les productions des cent et quelques bibliothèques sonores existantes sont toutes regroupées, mutualisées au niveau national dans ce que nous appelons une plateforme de téléchargement, plateforme à laquelle les audiolecteurs peuvent se connecter, moyennant qu'ils aient créé un mot de passe personnel qui leur donne accès, puisque l'accès n'est pas tout public, il n'est que pour les personnes qui sont inscrites dans une bibliothèque sonore. Et donc, les audiolecteurs peuvent se connecter à cette plateforme, choisir les livres, le ou les livres qu'ils veulent écouter, les télécharger directement sur leur ordinateur s'ils en ont la compétence. S'ils ne peuvent pas le faire, puisque pour la plupart, ils sont malvoyants, à ce moment-là, ils nous le demandent. Nous téléchargeons les livres en question et on leur fait passer l'enregistrement, soit sous forme de CD, soit sous forme de clé USB.
Ok. Alors bah justement, c'est intéressant. On voit le côté mutualisation un petit peu du catalogue à travers ce réseau national, l'association Donneurs de Voix. J'imagine qu'il y a peut-être d'autres intérêts de cette montée aussi en collectif, peut-être des échanges sur les méthodes d'enregistrement. Enfin voilà, quels sont un petit peu les autres intérêts d'avoir ce collectif, ce réseau national ?
Bah, l'association au niveau national soutient les bibliothèques sonores individuelles en leur mettant à disposition des informations, des tutoriels, beaucoup de tutoriels qui servent en particulier aux donneurs de voix. Je rappelle que les donneurs de voix, ce sont des bénévoles qui travaillent chez eux, à leur domicile, sur leur propre ordinateur. Donc, on ne les voit pas très souvent, on n'a pas beaucoup de contacts directs, donc c'est les aides qu'ils peuvent trouver sont sur le site de l'association à leur disposition.
Concrètement, là, sur la bibliothèque sonore d'Orsay, sur une saison, à peu près combien de personnes profitent de votre activité, des audiolivres que vous fournissez ?
Je ne saurais pas dire.
De mémoire, on a une quarantaine d'adultes, donc essentiellement aveugles ou malvoyants, et on a un peu moins de 200 enfants.
Plus. Oui, on est à 280 inscrits scolaires.
Au niveau scolaire.
Alors, on parlait des donneurs de voix à l'instant, donc ils sont bénévoles. Comment se passent les enregistrements ? Donc c'est des bénévoles qui font ça chez eux, mais vous me parliez quand même de formation Audacity. Est-ce que un bénévole qui a envie de donner un peu de temps, qui a envie de donner de la voix, mais qui n'a jamais fait d'enregistrement, peut venir ? Comment vous l'accompagnez ? Comment ça se passe ?
Alors, on lui fait une formation en deux épisodes. Un premier épisode avec Marc qui explique un petit peu ce qu'est l'association, Et puis, donc, de la manière d'enregistrer, les règles qui sont établies, parce qu'on a une charte qui nécessite un certain nombre d'éléments rigoureux pour pouvoir fonctionner comme il faut. Et puis, il y a une deuxième partie, donc, que moi, je fais en tant que formateur, concernant le fichier Audacity, qui est donc le fichier par lequel on fait les enregistrements. Donc, on fait une mise au point ensemble qui dure environ 2 heures pour une formation. Et puis, au-delà de ces 2 heures, on a un premier texte qui fait un peu moins de 2 pages qu'il faut, donc, que la personne doit lire et qu'elle renvoie au bout pour pouvoir vérifier si tout est bien en forme par rapport à ce qu'on a, essayé de leur enseigner. Donc, une fois que cet élément est fait, rectifié, puisqu'on le renvoie en disant, voilà, là, ça va pas, là, il faut. Et donc, à partir de ce premier enregistrement, donc, qui est vraiment un essai, ils vont enregistrer un premier livre. Donc, ce premier livre, on leur conseille de prendre un livre plutôt court, plutôt simple. Et puis, donc, de toute façon, le livre en question, il faut qu'ils nous donnent le titre du livre qu'ils veulent enregistrer. On évite évidemment de faire un enregistrement qui existe déjà. De plus, le premier enregistrement, comme c'est un premier enregistrement qui est nécessairement perfectible, en général, on le garde uniquement sur la bibliothèque sonore. Il ne va pas au-delà de la bibliothèque d'Orsay.
D'accord.
À partir du deuxième enregistrement, donc c'est un choix aussi du lecteur, du donneur de voix, l'enregistrement en question va monter sur le serveur national. Et donc là, au niveau de la montée sur le niveau national, il y a tout un tas de règles particulières qu'il faut mettre en place. Donc au niveau de la définition de l'enregistrement, les différentes repères qu'il faut mettre en place. Enfin, il y a toute une
Pour tout ce qui est chapitrage.
Voilà,
et tout.
Parce que le choix qu'on fait, c'est qu'il faut qu'on soit dans la qualité. Proche de la qualité d'un enregistrement professionnel. On a l'exigence d'être au niveau. Donc, c'est un élément important qui fait qu'on a du mal à recruter beaucoup de gens parce que ça nécessite beaucoup de temps. Donc, il faut être déjà donc, au niveau de l'environnement chez soi, dans une période où il n'y a pas de bruit, où on peut se concentrer sur son enregistrement, en sachant que pour 1 heure d'écoute, donc pour l'audiolecteur qui écoutera l'enregistrement, c'est entre 3 et 4 heures de travail pour arriver à avoir une qualité correspondant à la charte de la bibliothèque sonore.
Et sur ces 3 ou 4 heures de travail, en moyenne, un donneur de voix enregistre combien de pages, combien de signes ou combien de en termes de quantité de...
Une heure d'enregistrement, 1 heure d'écoute, c'est, je dirais que c'est une quarantaine de pages, entre 40 et 50 pages.
D'accord, donc pour un ouvrage qui fait 300 pages, il faut compter plusieurs dizaines d'heures de travail.
300 pages, c'est 10 heures. C'est 300 pages.
Nous sommes très exigeants sur le plan de la qualité, très exigeants vis-à-vis de nos donneurs de voix. On leur demande premier niveau d'exigence, premier niveau de contrôle, on leur demande de s'auto-contrôler, c'est-à-dire une fois qu'ils ont terminé leur enregistrement, on leur impose de se réécouter intégralement en suivant leur lecture avec le doigt sur le livre. Et là, bien souvent, on s'aperçoit qu'on a laissé passer des erreurs qu'on n'a pas corrigées au fur et à mesure. Donc c'est un premier contrôle par le donneur de voix lui-même. C'est suivi d'un deuxième contrôle au niveau de la bibliothèque sonore. Nous avons une bénévole qui est spécialement chargée d'écouter, pas intégralement, par sondage, mais d'écouter les enregistrements. Et elle est très rigoureuse, c'est-à-dire que si elle s'aperçoit qu'il y a des défauts de lecture, des choses qui ne vont pas, elle sollicite le donneur de voix pour les rectifier. Et ensuite, il y a un troisième niveau de contrôle au niveau national, puisque nous transmettons, comme Jean-Pierre l'a dit, nous transmettons les fichiers audio à la plateforme, mais à l'entrée, si je peux dire, à l'entrée de la plateforme, il y a encore un vérificateur qui fait un certain nombre de contrôles par sondage.
C'est vrai que c'est important d'avoir une certaine qualité quand on part sur une heure et demie d'écoute.
On ne veut pas mettre entre les oreilles de nos audiolecteurs, qui sont aveugles et qui ont déjà beaucoup de difficultés, on ne veut pas mettre entre leurs oreilles des enregistrements défectueux avec des bafouillements, des hésitations, des bruits parasites. Tout ça, on utilise un logiciel qui est très 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 performant et on veut vraiment que l'enregistrement fourni soit d'excellente qualité.
On en parlait tout à l'heure un petit peu, mais au niveau du catalogue, donc vous me parliez de 20 000 livres en ouvrages en littérature générale et aussi des ouvrages scolaires. Globalement, en termes de diversité, qu'est-ce qu'on retrouve dans votre catalogue? Des livres de poèmes, des romans, des nouvelles?
On accepte. On accepte n'importe quel type de littérature. Bien évidemment, nous avons une grande majorité de romans, puisque ce sont principalement les romans dont sont friands nos audiolecteurs. Mais si un donneur de voix nous propose un livre d'humour, ou de philosophie, ou de religion, ou d'histoire, on accepte n'importe quel titre. On veut que notre catalogue soit le plus diversifié possible.
Et j'ai vu aussi qu'il y avait la possibilité éventuellement de faire enregistrer un ouvrage à la demande. Comment ça se passe ?
À la demande, ça fait partie des deux principaux avantages de la bibliothèque sonore. La gratuité, l'opération est totalement gratuite pour les audiolecteurs qui peuvent s'inscrire dans une bibliothèque sonore et emprunter autant de livres qu'ils veulent. Et deuxième atout, notre proposition d'enregistrer à la demande, c'est-à-dire que l'audiolecteur, s'il ne trouve pas le livre enregistré sur la plateforme nationale de téléchargement, il nous le soumet et on trouve dans notre équipe un donneur de voix qui se porte candidat pour le faire.
Et ça, c'est des choses qui arrivent régulièrement, des demandes
Très régulièrement, toujours.
Ça arrive assez régulièrement, de temps en temps. Moi, ce qui m'est arrivé une fois, c'est que pour un collège, on devait enregistrer donc l'Odyssée dans la version scolaire. Et donc, j'avais fait un enregistrement de cette Odyssée. Et puis, un établissement scolaire m'appelle et me dit « Ah, il faudrait l'Odyssée ». Je dis « Ça tombe bien, je viens de le faire ». Il dit « Oui, mais dans la version Nathan ». Parce que j'avais fait une autre version et c'était pas du tout le même. Alors c'était même surprenant parce que donc deux livres qui parlaient de la même chose pour les mêmes élèves et ils étaient radicalement différents, y compris dans les traductions. Et là, il avait fallu refaire rapidement un deuxième enregistrement.
Ah oui, donc on peut même imaginer qu'il y ait des ouvrages qui aient plusieurs traductions en fonction des éditions, plusieurs transcriptions en fonction des traductions. Concrètement, si je suis une personne malvoyante ou si je suis un élève 10, comment puis-je avoir accès au livre audio? Quelles sont les modalités d'inscription? Comment je peux me rapprocher de la bibliothèque sonore d'Orsay Rive de Livette?
Alors déjà, un moyen simple de nous découvrir, c'est d'aller sur notre page web www.bibliothèquesonore.orsay.fr.
Très bien. Alors ensuite, vous vous situez où physiquement? Il y a un local, alors peut-être avec des heures de permanence, ou comment ça se passe?
Alors, on se situe dans le parc Boucher, qui se trouve en face de la mairie Orsay, et vous avez le pavillon qui est au fond du parc, qui est la maison des associations, et donc nous sommes au premier étage de ce pavillon. Et nous avons une permanence tous les jeudis de 15h à 17h.
Et puis si ce sont des enseignants qui veulent vous contacter ou des chefs d'établissement, c'est pareil, on peut...
Alors, on a une équipe dédiée qui s'occupe du scolaire, qui en début d'année fait le tour des établissements scolaires, rappelle donc nos capacités. Et puis tout au long de l'année, les enseignants donc, qui sont en rapport avec nous renvoient donc leurs éléments. En début d'année, on envoie aux différents établissements scolaires, en même temps que notre présentation, des fiches d'inscription qui peuvent distribuer aux enfants donc concernés. En principe, les parents doivent remplir ces documents. Alors, soit ils les remplissent au niveau de l'établissement et on a une convention et à ce moment-là, ça fonctionne par rapport à l'établissement, soit ils peuvent faire une inscription individuelle auprès directement de la bibliothèque sonore. Mais il faut absolument qu'il y ait un de ces deux éléments pour qu'on puisse, vis-à-vis des éditeurs, il faut qu'on puisse avoir ces éléments, parce que nous ne devons pas faire des enregistrements pour tout public.
Oui, oui. Et bah, merci bien Marc et Jean-Pierre d'avoir présenté la bibliothèque sonore d'Orsay. Très beau projet, et peut-être terminer en faisant un merci à tous les bénévoles qui participent à cette association. Ça représente combien de personnes qui gravitent autour de l'association Bibliothèque Sonore d'Orsay ?
Alors à Orsay, nous sommes une douzaine d'animateurs pour s'occuper de l'administration de l'association, et nous avons une petite quinzaine de donneurs de voix à l'heure actuelle qui travaillent régulièrement, plus ou moins pour certains, ça dépend de la disponibilité qu'ils ont, mais généralement les donneurs de voix ont toujours un fer au feu, c'est-à-dire un enregistrement en cours.
Très bien, on les remercie, puisque c'est grâce à...
On les remercie vivement, oui.
Grâce aux bénévoles que ce genre d'association peut exister. Merci à vous deux, et puis je vous dis bonne continuation.
Merci.
BLP Radio. BLP Radio.